Bon mardi à tous. Vous êtes à l'écoute de Chérie, j'arrive, votre retour culturel alternatif ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et c'est Noémie, votre animatrice. Et aujourd'hui, à la co-animation, j'ai le bonheur d'accueillir Élise Rivrain. Bonjour!
Hello!
Alors, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, Élise. On a plusieurs invités aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, plusieurs invités. Ça va être super intéressant. On va pouvoir commencer justement avec Alain Veilleux, président d'honneur du festival Découvreur. Puis par la suite, on va pouvoir également parler du Carrefour international de théâtre, mm-hmm. En fait, le festival Carrefour. Donc, je vais pouvoir vous parler de tout ça. J'ai été voir Où tu vas, j'ai été voir un spectacle au Jardin des Potini. Donc, ça va être super intéressant.
J'ai très hâte d'apprendre un peu plus sur ton expérience. Et par la suite, à 16h45, on va avoir une entrevue avec la scénariste et réalisatrice Laurence Côté-Collins. On va parler de son film documentaire ainsi que du livre Billy qui va être à l'affiche le 30 mai, à partir du 30 mai au Cinéma Quartier ici à Québec. Et à 17h, on reçoit Lana Henk pour parler musique. Alors, tel que nommé dans cette introduction de show, je suis, on est très heureux d'accueillir à l'autre bout du fil, Alain Veilleux, artiste peintre et président d'honneur de la 38e édition du Festival Découvreur. Bonjour, bonjour!
Bonjour, bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer.
Merci de nous accorder ce temps en onde pour parler du Festival Découvreur qui célèbre sa 38e édition cette année. Mais avant d'aller un peu plus un peu plus en profondeur dans cet événement d'envergure qui a lieu à Cap-Rouge, on aimerait en apprendre un peu plus sur votre pratique artistique. Alors, je vais laisser la parole à ma co-animatrice du jour.
Oui, qu'est-ce qui vous a amené à faire des arts visuels à la base, en fait?
Eh bien, c'est pas une histoire courte. Moi, je me destinais pas à une carrière dans les arts visuels comme artiste peintre. Je suis ce qu'on appelle un autodidacte, là, dans le sens où j'ai pas fait les beaux-arts à l'université. Je suis allé à l'université en enseignement, mais j'enseignais d'autres matières que les arts plastiques. Et c'est sûr que quand on est jeune, je connais pas beaucoup de petits garçons, de petites filles qui aiment pas colorier un peu, mais c'est pas nécessairement la... C'est extraordinaire, mais c'est pas ça qui va déterminer notre futur non plus. Mais il faut dire que je crois au destin quelque part, parce que, comme je disais, quand j'ai commencé à faire de l'enseignement il y a 25-30 ans, à ce moment-là, il y avait un petit peu moins d'opportunités, puis c'était à contrat, puis souvent on travaillait la dernière minute, on recevait un appel le matin, puis on se rendait à l'école, puis il y a des journées où le téléphone sonnait pas, alors... C'est difficile quand on a 20 ans. Donc, je me suis rappelé que j'aimais beaucoup le dessin, les arts plastiques quand j'étais petit à l'école. Et tout bonnement, sans arrière-pensée, là, je me suis dirigé dans un petit magasin, là, genre Omer de Serre, pas le nommer. Puis j'ai acheté un petit kit de départ de peinture. Puis écoutez, à ma grande surprise, puis peut-être au grand désespoir de mes parents, faut le dire là, avec humour, je me suis découvert une passion. Et cette passion-là, au fil des années, est devenue mon travail et mon gagne-pain.
Oui, exactement. Alors, ça fait quand même 25 ans que vous êtes artiste peintre maintenant. Et votre pratique et votre démarche artistique, justement, indiquent que vous explorez les textures, la spontanéité et l'organisation un peu désorganisée. Donc, vous jouez également avec la lumière et vous déformez les perspectives. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos œuvres avec la couleur ou comment on peut qualifier votre pratique artistique?
C'est une bonne question. C'est difficile de se définir soi-même. La plupart des gens qui vont voir mes œuvres en symposium, en exposition, quand je les rencontre, spontanément, ils vont faire une association, un rapprochement avec un aspect mosaïque, casse-tête ou vitrail, parce que j'ai développé une manière de colorer, composer mes œuvres, que ce soit des animaux, des paysages, des maisons, des fleurs, peu importe. En fait, c'est ça. Je l'ai fait au pinceau. Après avoir fait un croquis vite, puis là, je m'amuse vraiment. Le plaisir que j'ai, c'est pas juste de mettre la couleur et de décomposer à la limite de l'abstraction, si on veut. Et là, ça me permet de faire quelque chose qui se démarque un petit peu de l'ordinaire. À la grande surprise un peu, parce que au départ, c'est un petit peu un incident de parcours. Là. Je travaillais de manière un peu différente, puis peut-être l'évolution. L'évolution, souvent, finalement, elle arrive quand on se permet d'essayer de se tromper, de recommencer, puis comme dans la vie, finalement. Alors, c'est un peu comme ça que j'en suis arrivé à faire le style que j'ai actuellement depuis les 5-6 dernières années.
Et qu'est-ce que vous inspirez, justement, en fait, que souhaitez-vous transmettre à travers vos œuvres et votre pratique?
Mon Dieu, je pense que la plus belle chose, oui, j'aime la couleur, oui, j'aime beaucoup mon travail, c'est un travail, parfois, en fait, la création, ça se fait souvent dans la solitude, là. Je pense un peu la même chose en humour, en chanson, mais en art visuel, c'est un peu la même chose. Ça nous oblige à se confronter à soi-même, mais par contre, moi, je suis d'une nature assez joviale et je pense que ça paraît. Et finalement, c'est un peu comme en chanson, je pense que la personnalité vient d'elle-même à travers la persévérance, le travail, là. Puis en art visuel, en peinture, c'est la même chose. Donc, la plus belle chose, pour moi, le plus beau compliment, au-delà du style, des couleurs de mon travail, c'est quand on me dit que je transmets le bonheur, la joie, le plaisir des gens qui achètent ou se procurent une œuvre, puis vont la mettre dans leur salon, leur maison, puis ils viennent me revoir un an, deux ans, cinq ans, dix ans plus tard, me dire « Monsieur Veilleux, vous savez, on a encore votre peinture, puis on est content, ça nous rend joyeux, ça nous fait oublier le petit côté noir et blanc de la vie du quotidien parfois. » Alors ça, c'est le plus beau compliment. Ça vaut de l'argent, ce compliment-là. C'est ce qui me motive à persévérer, à continuer, à avancer toujours dans ce domaine-là.
Mais je vois que la transmission, justement, autant dans votre rôle passé de professeur, dans votre rôle de professeur que dans votre rôle d'artiste, c'est vraiment au cœur de votre pratique. Et cette année, pour la 38e édition du festival Découvreur, vous êtes à la présidence d'honneur cette année. Puis je voulais savoir, c'est quoi votre lien justement avec le festival Découvreur? C'est quoi votre premier souvenir de ce festival?
Et j'ai envie de faire une petite blague. Moi, je suis Trois-Rivières, puis ma copine aime beaucoup aller chez Simons à Québec. C'est que Québec, c'est toujours été une ville, je trouve, beaucoup plus attirante pour les gens de Trois-Rivières en général que pour moi. Et c'était un petit peu comme ça à mes débuts, là, quand j'ai commencé à faire des symposiums. On se renseigne à gauche et à droite. Et puis, pendant l'hiver, en fonction de l'été, puis... Ben, écoutez, c'était un de mes premiers choix. Je l'ai fait à de nombreuses reprises, là, de symposium de Cap-Rouge, parce que c'est un des premiers événements de l'année en peinture, en plein air. Puis, c'est un des plus importants aussi au Québec, là, vous l'avez dit tantôt, c'est le 38e anniversaire. Alors, c'est parmi les 4-5 plus vieux événements de peinture, là, au Québec. Ils roulent toujours avec beaucoup de succès d'année après année, qui se renouvellent sans cesse, puis par des bénévoles qui sont très motivés, passionnés, et des nombreux commanditaires qui suivent comme les visiteurs.
Puis justement, c'est quoi l'impact? Vous l'avez dit, ça fait 38 ans que ça existe, puis que cette année, il y a plus d'une centaine d'artistes qui vont être présents. Quel impact le Festival Découvreur a pour les artistes en art visuel, mais autant que pour le public aussi qui consomme de l'art visuel?
Oui, c'est une bonne question. Écoutez, je répondrai, il y a plusieurs choses à dire, mais comme j'ai dit tantôt, vous savez, quand on fait de la peinture ou toute chose, là, c'est sûr que c'est très visuel. Donc, on est principalement, on va utiliser les médias sociaux, Instagram, Facebook et compagnie, les sites web, pour montrer notre art, faire connaître. Mais il n'y a rien de mieux que faire une activité, de rencontrer les gens en vrai.
Définitivement.
Dans nos kiosques, par une belle journée ensoleillée. Et discuter avec eux autres. Et je vous jure que les gens en général, là, même s'ils sont néophytes, ils connaissent pas trop la peinture, ils sont très gentils, ils vont poser des questions, ils vont regarder avec enthousiasme puis faire la randonnée de ce bel événement-là au travers des 4 sites d'exposition.
Puis justement, c'est un événement de 2 jours. T'sais, l'art visuel, c'est quand même un médium artistique qui est quand même très solitaire. T'sais, on est seul devant avec ses pinceaux, avec ses toiles. Puis justement, le fait de la rencontre des autres, ça crée vraiment un lien super unique. Ouais, c'est ça, exactement, unique entre l'artiste et les gens qui vont trouver ce sentiment d'appartenance là envers les œuvres. Le festival Découvoir a lieu le samedi 7 juin et le dimanche 8 juin au parc nautique de Cap-Rouge. Pour les auditeurs et auditrices qui ne sont jamais allés au festival Découvreur, qu'est-ce que vous leur direz pour les convaincre justement de se déplacer puis de venir visiter les différents artistes qui vont participer au symposium de Cap-Rouge?
Ben écoutez, s'ils l'ont jamais fait, il serait peut-être temps qu'ils profitent du début de l'été pour inscrire ça à leur agenda. C'est dans moins de deux semaines. Alors moi, je les invite à venir prendre une marche en famille, avec des amis ou un seul, s'il faut, pour se changer les idées, mettre de la couleur dans leurs yeux, rencontrer des sourires, des gens. Le festival accueille, comme vous l'avez dit, au-dessus de 100 artistes. La plupart viennent de la région du Grand Québec et l'autre, la ville de Québec, pardon, et l'autre moitié viennent d'ailleurs. Cette année, il va y avoir au moins 25% de renouveau chez les artistes. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas tout aimé dans la vie. En art, c'est pareil, là.
Mm-hmm.
La peinture, présentement, est dans une phase que je dirais extraordinairement créative et explosive dans la mesure où tous les styles, c'est sûr qu'il y a un courant dominant, une tendance qui touche tous les animaux, mais il n'y a jamais eu tant de diversité dans l'art, je trouve, depuis les 10-15 dernières années que présentement. Donc, vous pouvez voir des œuvres abstraites, vous pouvez voir des œuvres hyper réalistes, vous pouvez voir toutes sortes de sujets qui vont vous toucher. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va toucher le néophyte ou l'amateur quelque part. Là, on se laisse aller prendre une belle petite marche là, sur les beaux sites près du fleuve. C'est certain qu'il y a quelque chose de positif qui va vous accrocher et vous aider le cœur.
Mm-hmm. Puis il y a différentes animations aussi tout au long de la fin de semaine. Et il y a même un concours où le public peut gagner la chance de gagner l'une de vos œuvres.
Et oui, ça, c'est une excellente manière d'inciter les gens à participer, à venir nous voir. C'est ça. Alors, pour la modique somme de 2 $, les gens peuvent acheter un ou des biens, dépendamment de leur budget, pour gagner une œuvre qui a une valeur quand même de 1 200 $. C'est une œuvre très colorée qui représente un lion. C'est très, très, très représentatif de ce que je fais présentement. Et non seulement ça, mais aussi, vous savez qu'il y a un service de navette qui est disponible là, entre 11h et 5h de l'après-midi pour faire le tour des 4 sites là, qui s'étendent quand même près du Trécel, sur le bord de l'eau, au parc nautique. Ça remonte jusque dans le vieux Cap-Rouge, là, où il y a des belles petites maisons ancestrales autour du parc de l'atelier Gérard Blanger. Donc, sur la rue Provencher. Je me trompe pas.
Parfait. Donc, on va pouvoir suivre ça de près. Également, si jamais des auditeurs, auditrices ne peuvent pas aller sur place, mais qui sont intéressés par vos œuvres, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ou pouvoir voir un peu le déroulement de l'événement?
Bien sûr, exactement. Alors, j'encourage les gens à aller sur le site web du Festival Découvreur qui est très à jour, il est magnifique. Il est toujours bien... bien arrangé, plein de bonnes suggestions depuis plusieurs semaines. Là-dessus, vous allez avoir de quoi pour vous dépanner, pour rencontrer les artistes, les endroits d'exposition, les sites, et puis les horaires, tout ça. Là. Alors, j'encourage à voir le site du Festival Découvreur, et vous allez par le fait même voir quelques-unes de mes œuvres.
Parfait, merci.
Et ceux
beaucoup.
Des autres.
Oui, totalement. Merci beaucoup, M. Veilleux, pour ce moment avec nous. Donc, on va pouvoir vous voir, vous rencontrer le samedi 7 et le dimanche 8 juin au Parc nautique de Cap-Rouge pour l'événement, le Festival Découvreur. Et il va y avoir plusieurs événements sur place, dont des ateliers de peinture, de linogravure, etc. Et en même temps, voir vos peintures, pouvoir vous rencontrer, etc. Donc, merci encore pour ce moment.
C'est un plaisir. Merci.
Merci.
Alors voilà, c'était une entrevue avec le président d'honneur et artiste peintre Alain Veilleux, qui est président d'honneur cette année du Festival Découvreur, qui célèbre sa 38e édition. C'est un événement gratuit aussi, oui. On a oublié de le nommer, événement gratuit qui a lieu au parc nautique de Cap-Rouge, alors proche de la promenade de la place Jacques-Cartier, chers auditeurs, auditrices. Alors pour les fans d'art visuel, les gens qui aiment aiment les moments en plein air, qui aiment les marchés artisans aussi. Ça peut être vraiment une bonne occasion de découvrir des artistes du Québec et de faire le plein de couleurs, de nature et d'art visuel.
D'idées également.
Ben oui, c'est ça, parce qu'on en a pas nommé, tu l'as nommé à la fin, Élise, mais il y a plusieurs ateliers, justement, oui. qui sont offerts pendant la fin de semaine. Alors, pour voir l'ensemble de la programmation, je vous invite à aller directement sur le site web du Festival Découvreur pour voir l'ensemble de la programmation de cette année. Et on va continuer en musique. Vous le savez, hein, les mardis, c'est les mardis nouveautés. Et on va partir en musique avec une chanson collaborative. C'est l'artiste Héron qui a sorti une chanson avec Canon. Ça s'appelle Bras solaires. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. La chanson Bras solaires de Héron et Canon. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur le zone de Chiz 94.3. Je suis toujours accompagnée de ma co-animatrice du jour, Élisée Riverain.
Coucou!
Alors, le festival, ben le festival de théâtre, Festival d'art vivant, Festival Carrefour, auparavant oui. connu pour s'appeler le Festival international de théâtre oui. de Québec, est de retour cette année pour une 25e édition. Mm-hmm. Ça a commencé la semaine dernière, donc le 22 mai dernier. Tu es allé voir oui. un des aspects quand même assez importants du Festival Carrefour, soit le parcours où tu vas quand tu dors en marchant.
Oui, parcours où tu vas quand tu dors en marchant qui se déroule les jeudis, vendredis et samedi soir de 21h à 23h. Et c'est aussi quand il pleut pas, là, donc suivez les réseaux sociaux pour savoir, puisque la semaine passée, ils ont été un peu malchanceux, vendredi et samedi. Mm-hmm. Ça a été annulé, mais j'ai réussi à y aller jeudi soir. J'avais prévu mon coup. Donc, en y allant jeudi soir, il n'y a pas plu. Tous les tableaux étaient sur place. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas où tu vas quand tu dors en marchant, cette année, c'est 4 tableaux. 4 tableaux en art vivant, de théâtre aussi un peu. Il y a de la danse, de la musique, vraiment de tout. Et c'est des boucles de 15 minutes dans chacun des tableaux. Donc, on fait seulement on se promène à travers les tableaux, puis on vit chacune des expériences à l'intérieur. C'est complètement gratuit également. Et cette année, ça se déroule dans le Vieux-Québec, donc de la place Douville jusqu'à l'îlot des Palais, en face de la gare des Palais.
Tu étais allée l'année dernière quand ça avait lieu près de
la place Jean-Béliveau.
C'est ça, place Jean-Béliveau, exactement. Et c'est les mêmes tableaux qui sont de retour cette année. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents tableaux et peut-être des différences que tu as pu noter suite à ton expérience de l'année dernière?
Oui, en fait, cette année, il y a 4 tableaux. Premièrement, le tableau « Le grand marché de l'influence » qui se déroule à la place Douville, qui est créé par Nicolas Drolet et Erika Soucy. C'est un grand spectacle de faux influenceurs, un peu déjantés, mais comme complètement déconnectés de la réalité. C'est clairement une critique de l'omniprésence des réseaux sociaux, des influenceurs également. Donc, on s'en va là, on observe chacun des influenceurs dans leur petit cubicule, mais à un moment donné... Vous pouvez pas manquer ce bout-là où ils vont tous chanter ensemble. Et on vous donne également, en tout cas, l'année passée, c'était le cas. Cette année, j'imagine aussi, un petit code QR pour lire les paroles, puisque les paroles ont été créées sur mesure pour critiquer justement ces influenceurs-là, un peu cette déconnexion souvent avec la réalité ou juste le fait de montrer le beau côté sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un mélange de tout dans ce tableau-là. Super intéressant. Il y a full de musique, mais super interactif. C'est interactif, mais pas interactif. En tout cas, vous allez pouvoir le...
Faut le vivre pour le comprendre.
Pour comprendre ce tableau-là. Difficile un peu à expliquer. Sinon, lorsque vous descendez un peu plus bas au parc de l'Artillerie, plus dans le champ de bataille, il y a le tableau Yawatsira, un tableau qui est créé par Aïcha Bastien Ndaye et Lydia Waguerer. En fait, cette année, une des grandes différences que j'ai notées par rapport à l'année passée, c'est que l'une des chorégraphes, Lydia Waguerer, est malheureusement décédée en février dernier. Donc, le tableau a été un petit peu remodelé de cette manière-là pour rendre hommage à cette chorégraphe-là qui a créé à la base le tableau. Donc, on peut le voir dans les paroles. On voit aussi certaines images, puisque c'est vraiment une grande fête. C'est pas un party, c'est vraiment comme un gros...
célébration.
C'est une célébration. Yawatsira, ça veut dire famille en Wenda. Donc, il y a vraiment ce côté-là... célébration, party de famille un peu. Il y a plein de danseurs autour et il y a un joueur de djembé, de tam-tam qui font la musique tout en live. Donc, c'est super intéressant justement pour découvrir un peu les cultures autochtones, mais en même temps de vivre cette expérience-là de joie familiale de tout le monde qui se retrouve là en même temps. On a tout fait le petit train là. Pendant que j'étais là. Après ça, il y a des danseurs qui viennent danser à travers nous. Donc, super... super joyeux comme tableau.
Sinon, le prochain tableau, c'est le tableau « La nuit nous appartient ».
Oui, « La nuit nous appartient » par Jocelyne Pelletier et Pascal Asselin, autrement connu sous le nom de DJ Mélimétrique. Mm-hmm. Donc, c'est littéralement à côté. Il faut comme passer à travers « La nuit nous appartient » pour aller à Yawatsira. C'est dans le hangar La Fabrique d'Obus, également au parc de la Thierry. C'est un grand rave underground, style années 90. Sur la musique, ben, en fait, il y a DJ Millimetric sur place qui fait la musique. Donc, c'est un gros party, là. Puis, en passant, vous pouvez être figurant pour la soirée, pour passer la soirée là à faire le party, soit figurant bénévole, vous pouvez vérifier sur le site, mais c'est vraiment un gros party, là. Grand party, super intéressant, justement pour ceux qui aiment la musique électro, pour ceux qui aiment justement les ambiances, là. C'est vraiment une grande soirée d'ambiance à ce moment-là. Et également, il y a des artistes qui font des graffitis sur place. Donc, différents graffitis, différentes choses qui vont se passer également pendant la petite boucle. Parce que même si c'est un gros rave, il y a une boucle comme où tu vas, c'est le faire. Donc, je vous donne comme défi de trouver c'est quoi la fin de la boucle.
C'est quand la fin de la boucle, c'est vrai.
C'est quoi? Parce que quand j'y avais été l'année passée, ça m'a pris, je pense, 2-3 boucles avant de comprendre c'était quoi la fin de cette boucle-là. Mais vous allez voir à un moment donné, c'est comme, ah ok, c'est ça.
Et le dernier tableau, lui, c'est pour sa part, est à Lilo Dib Palais, et c'est le tableau qui s'appelle Vésuve.
Oui, et comparativement à La nuit nous appartient, celui-là, on sait c'est quoi la fin de la boucle. Est assez très, très clair. Mais c'est un tableau qui est créé par Étienne Lafrenière. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le Vésuve, c'est un volcan en Italie qui a enseveli Pompéi, qui est une ville, en 79 après Jésus-Christ. Et maintenant, en fait, la ville a été complètement enlevée des cendres et c'est possible de la visiter présentement en Italie. Donc, c'est comme une référence, en fait, à ce tableau-là. Donc, c'est un géant volcan fait avec des abris tempo, puisqu'ils ont fait une annonce également au Carrefour international de théâtre pour trouver des abris tempo qui n'ont pas passé l'hiver. Donc, c'est un peu comme du recyclage, un grand volcan tout blanc, mais en même temps, un peu sale en même temps. Et on a des personnes, des danseurs, etc., qui se promènent. C'est 360 celui-là, donc on peut se promener partout autour. Puis, c'est comme une représentation des humains fossiles un peu, là. Donc, il y a des jeux de lumière. En même temps, les personnes qui sont sur place font le rôle des personnes qui ont été ensevelies à Pompéi. Donc, une fois que vous connaissez l'histoire du Vésuve, c'est vraiment intéressant de voir comme tous les petits aspects qui ont été intégrés à ce tableau-là. Et je vous donne quand même comme défi de trouver la fin de la boucle, mais comme c'est très... très visible, très facile.
Et tu me disais, Élise, que c'était considérant que les tableaux sont placés cette année, c'est facile de parcourir, oui, le Vieux-Québec, justement, et de faire l'ensemble des tableaux en une soirée.
Ce qui est vraiment un grand avantage, parce que les dernières années, je pense que le Carrefour, c'est comme un peu éloigné de cette partie-là, de c'est difficile à faire où tu vas en une soirée pour les personnes qui viennent, normalement. C'est des boucles de 15 minutes, habituellement. Mais pour voir tous les aspects, les dernières années, on devait y aller 2-3 fois pendant le festival, et ça joue quand même 9 fois là, pendant 3 semaines. Mais cette année, en étant tout à côté, c'est un gros max comme de 10 minutes de marche de l'îlot des Palais à Place Douville. Donc ça se fait super bien. En 45 minutes, j'ai quasiment pu voir 3 tableaux au complet avec les boucles. Ça se fait super bien en une soirée, surtout que c'est comme ça joue pendant 2 heures, donc de 21h à 23h, les jeudis, vendredis, samedi. Donc c'est vraiment un grand avantage cette année. C'est vraiment facile d'accès, là. Vraiment facile à aller voir tout en une soirée sans problème.
Alors, pour voir les parcours déambulatoires où tu vas quand tu dors en marchant, cher auditeur, auditrice, ça se déroule jusqu'au 7 juin. Jusqu'au 7 juin, comme tu disais un peu plus tôt, Élise, les jeudis, vendredis et samedi soir de 21h à 23h. Quand il ne pleut pas, c'est un événement qui est gratuit. Aussi, on le rappelle, dans le cadre de la 25e édition du Festival Carrefour. Merci, Élise. On va aller en courte pause publicitaire, mais au retour, on va poursuivre cette chronique du Festival Carrefour en parlant d'un spectacle que tu as vu le week-end dernier.
Oui, on va pouvoir parler du Jardin des Potiniers qui était disponible à la salle multi. Donc, on va pouvoir parler de ça après.
Alors voilà, on s'en va en courte pause, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur le nom de Schiste 94.3.
Au coin extérieur, le tir.
C'est terminé! Les remparts Rouge un sacré champion.
Chiz 94.3, la radio des champions à Québec.
Hey, cet été, Chiz 94.3 va faire les festivals autour du monde!
Aïe, Kevin, il y a assez de bons festivals au Québec, pas besoin d'aller loin. Cet été, l'équipe de Chiz 94.3 sera sur la route des festivals à travers le Québec afin de vous dénicher les meilleurs spectacles. Tadoussac, Baie-Saint-Paul, Québec, Val-d'Or, en veux-tu du bon spectacle? En v'là!
Pour ne rien manquer, visitez le schiz.ca et syntonisez le 94.3 tout le temps.
En Moukéo Sitz.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliées ou ignorées, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmukeositz, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Le Festival La Chanson de Tadoussac, une bulle musicale incomparable. Du 12 au 15 juin, profitez de concerts intimes avec Claude Pelgag, Ariane Roy, Oui Merci et bien d'autres. Découvrez une programmation diversifiée et éclatée dans tout le village. Entre fjords et fleuves, vivez une fin de semaine entre amis inoubliables. Présenté par Québecor et en collaboration avec Hydro-Québec. Info sur chansontadoussac.com.
Avant les feux de la LNH, il y a ce moment. Les 6 et 7 juin, au Centre Vidéotron, assisté gratuitement au repêchage 2025 de la LHJMQ, présenté par Fenplast. Un événement unique, rempli d'émotions et de jeunes espoirs. Détails au rempart.ca.
Réservez votre 27 juin prochain parce que c'est le retour de Québec Redneck Bluegrass Project à l'Agora du Sport de Québec. C'est l'unique occasion de voir QRBP à Québec et ses alentours en 2025. Et pour l'occasion, nul autre que le groupe Galaxy va ouvrir la soirée. Pour plus d'informations, qrbp.band.
Êtes-vous prêts, les bombes?
Oui, camarades!
J'ai pas entendu!
Oui, camarades!
Ben, manque pas le bateau, une émission en direct depuis le jardin de l'hôtel Tadoussac pour célébrer la 41e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Au programme, des rencontres avec des artistes, des retours de spectacle et surtout, une bonne ambiance. Manque pas le bateau, les 13 et 14 juin, dès 11h, sur les ondes de Chiz 94.3 FM et au jardin de l'hôtel Tadoussac.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Eh oui, vous êtes toujours à l'écoute de Chérie. J'arrive à votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et aujourd'hui à la co-animation, je suis toujours accompagnée d'Élise Riverain.
Hello!
Et là, Élise, on en a parlé un peu plus tôt. Tu es allée visiter le festival Carrefour, festival d'art vivant qui célèbre sa 25e édition cette année sous le thème de la rencontre.
Oui, donc cette année, plusieurs... Ben, en fait, j'en avais mentionné tantôt, tu vois, quand tu dors en marchant, c'est tout sur la rencontre avec les autres. Et là, j'ai été voir au Jardin des Potiniers, donc une rencontre, je dois dire, sensorielle.
Ah ouais.
C'est le mot que j'ai pour ce spectacle-là, qui se déroulait du vendredi 23 au dimanche 25. Donc malheureusement, c'est terminé, mais je vais quand même vous en parler pour ceux qui l'ont manqué. C'était un spectacle 6 ans et plus, majoritairement pour les enfants, mais j'ai retrouvé mon cœur d'enfant. C'est interactif, c'est vraiment fait pour s'émerveiller sur la nature et s'émerveiller sur toutes les petites choses, tous les petits détails, les petits sons, mais la grande particularité qui fait que c'est complètement sensoriel, c'est qu'on sent notre tête à travers un grand plateau, en fait. Il y a 30 personnes qui peuvent voir, ben, qui peuvent vivre le spectacle en même temps. C'est 6 tables de 5 personnes avec des petits trous où chacun, on sort notre tête à notre petit endroit sur notre table et on vit tous une expérience différente.
Ça me fait quasiment penser aux tu sais, dans les arcades, là, les marmottes qui sortent leur tête puis que là, il faut que tu leur donnes un petit coup sur la tête pour le plus vite possible. Là. Ça me fait un peu penser à ça.
Moi, je pensais dans les musées, par exemple, on pouvait sortir de notre tête genre dans un igloo, dans des affaires de même. Quand on était jeune. Mais oui, il y a comme tout cet aspect-là enfantin qui vient chercher le spectacle au Jardin des Potiniers qui est présenté par la création de Dans la Chambre et le collectif Esraz. Et c'est une collaboration Québec-France-Belgique, d'où le nom Au Jardin des Potiniers. Là, on s'entend que c'est pas commun comme titre de spectacle. Et chacun, justement, a sa vision différente, littéralement. Du spectacle. Quand on sort de là, également, on nous permet de voir tout l'envers du décor, comment ça s'est déroulé. Puisque pendant ce à peu près 40 minutes-là, on voit les manipulations en direct des personnes qui viennent interagir avec la nature qui est présentée devant nous. En fait, on vit en fait le concept et qu'on vit un peu la vision de la nature. Donc, on peut voir des montagnes qui s'élèvent. En fait, nos têtes sont des montagnes, mais il y a également comme des respirations de la nature, des montagnes, la création également d'arbres, de feuilles, de fleurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est très relaxant qu'il se passe beaucoup de choses en même temps. Également, il n'y a pas de paroles. Donc, c'est sonore complètement avec de la musique. Puis on voit les interactions et toutes les manipulations que chaque personne font autour de la table pendant qu'on vit cette expérience-là. Et à la fin, on a pu voir tout l'envers du décor, comment ils faisaient chaque chose. Là. Donc c'est super intéressant de ce côté-là.
Et justement, ben c'est pas le seul événement jeunesse qu'il y a dans la programmation du Festival Carrefour qui dure quand même presque trois semaines,
le Festival Carrefour, puis il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Mais celui, le spectacle que je trouvais qui ressemblait le plus au Jardin des Potiniers, c'est « Merci d'être là » par Otro Erend Groend, qui se déroule du samedi 31 mai au lundi 2 juin. Donc, en fin de semaine, là, au Théâtre Labordé. Et c'est une célébration du public au théâtre, puisque le théâtre, ça peut seulement se passer avec du public. On s'entend là-dessus. Donc, c'est un théâtre dont vous êtes le héros, donc dans la même lignée. Si jamais vous voulez vivre une expérience immersive, mais en même temps vivre, j'imagine, votre côté cœur d'enfant, là, un peu à travers ça, faire vraiment en fait partie de ce théâtre-là, ça peut être super intéressant.
Merci grandement, Élise, d'avoir assisté au spectacle du Jardin des Potiniers. Comme on vous le disait un peu plus tôt, il y a plein d'autres spectacles qui se passent dans les deux prochaines semaines. Le Festival Carrefour se poursuit jusqu'au 7 juin. Est-ce que tu peux nous proposer d'autres sorties culturelles qui vont avoir lieu pendant le Festival Carrefour?
Qui se passe pendant le Festival Carrefour, on a Lacryma, un spectacle qui se déroule en fin de semaine, donc du 30 mai au 1er juin. On a Ewa Randa, Lettre aux absents, qui se déroule également en fin de semaine. Beaucoup de choses qui se passent en fin de semaine au Festival Carrefour. Puis, la semaine prochaine, se déroulent d'autres spectacles également, comme Michel, The Rise of the Bling Bling, le diptyque. Mais plus précisément, demain, il se passe une soirée cinéma au Cinéma Beaumont avec différents courts-métrages sur le thème du Carrefour cette année. Donc, c'est ça qui est annoncé. Je ne sais pas trop ça va ressembler à quoi, quel type de court-métrage, mais c'est clairement une soirée qui peut être super intéressante. Et comme on a mentionné, Où tu vas quand tu dors en marchant, ça se déroule jusqu'au samedi 7, les jeudis, vendredi, samedi. Je vous invite vraiment à vérifier les réseaux sociaux à chaque jour du Carrefour, donc Festival Carrefour, puisqu'il annonce qu'est-ce qui se passe à chaque jour, également sur le site, la programmation et par journée. Donc, si jamais vous êtes disponible seulement une journée, vous pouvez aller directement sur la programmation section, indiquez telle journée et vous allez voir qu'est-ce qui est disponible. Et les activités, en fait, pour le coût des activités, il y a des activités tant gratuites jusqu'à 55 $ le billet, et avec une tarification inclusive également pour plusieurs spectacles. Mm-hmm. Donc, super facile d'accès.
Une petite nouveauté là, pour cette année avec le festival Carrefour. Mais pour voir l'ensemble de la programmation, on vous invite à aller sur carrefourtheatre.qc.ca. C'est aussi là que vous pouvez vous procurer les différents billets pour les spectacles payants. Puis sinon, ben, comme tu l'as bien dit, allez suivre les sites sur les réseaux sociaux pour avoir les updates en temps réel du festival. Exactement. Carrefour. On n'a pas fini de vous en parler, chers auditeurs, auditrices. On va, entre autres, vous parler demain des chantiers. Des chantiers artistiques j'en ai parlé un peu plus tôt la semaine dernière, en fait, les chantiers qui présentent des constructions artistiques en cours dans les arts vivants. Donc on peut voir de la danse, on peut voir du théâtre, etc. Fait que demain je vais aller m'immerser dans le monde des constructions artistiques. Alors voilà, on va pouvoir vous en parler davantage demain. Sinon on va partir en musique, mais avant de vous dévoiler la chanson qu'on va écouter, restez à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, parce que après la chanson qui va jouer, on va s'entretenir avec la scénariste et la réalisatrice Laurence Côté-Collins. On va parler du film documentaire Billy. C'est le troisième long métrage de Laurence Côté-Collins qui nous plonge dans un documentaire intime et inédit dans la tête de son ami Billy qui souffre de schizophrénie, pardon. Alors on va avoir l'occasion d'en parler davantage avec la réalisatrice. Et sans plus attendre, on va écouter la chanson À perdre haleine de Courage. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
De mon cœur qui bat, y'a le souffle dans mes poumons qui ne trahit pas. Dans la mer, mes yeux se noient, c'est noir dans ma tête et mes idées se broient. Quand Damoclès laisse tomber son arme, quand de ma chaise le dossier s'enflamme. Le bruit du temps donne des acouphènes, mes tympans battent la mesure du thème. Celui de mon sang qui parcourt mes veines. Que j'effleure comme de la dentelle, ceux du maître qui dans le bois abandonne sa chienne. Je manie les mots à la manière d'un mime, dans la gorge un noyau comme dans les films. L'air est chargé d'encre de chine, c'est la nuit, même si dehors la lumière domine. Prends encore ta main dans la mienne, même si la finale ne sera pas je t'aime. Rappelle-toi quand le destin nous a réunis, quand la première tu m'as invité d'un sourire au resto, quand t'as cassé le biscuit, ça disait que t'avais trouvé l'amour de ta vie. Mais pour croire que la vérité c'est pas du hasard, que même si je combats, il est déjà trop tard. Non loin de mon cœur qui bat, y a le souffle dans mes poumons qui ne trahit pas. Dans la mer, mes yeux se noient, c'est noir dans ma tête et mes idées se broient.
Tu regardes pas en avant, tu regardes trop en arrière. Tu sais que dehors, la lumière brille à travers les œillères. Laisse le vent souffler ta peine. Le bonheur est encore là, comme une boîte à surprises. Faut juste tourner la manivelle, reprendre son souffle pour courir de plus belle.
Dans la pièce ne subsiste que les courants d'air, le vide vivant des visages vacants qui vous poussent à vouloir vous évader dans le vent. Sous la grande gorgée de gin, de vodka. Mais l'alcool, moi, je supporte pas ça. La solitude, c'est assez pour vous mettre dans un autre état.
Tu penses à son départ, à la séparation. Regarde le trottoir pour cacher ta honte. Et un parfum qui flanche comme de la dentelle. Celui qui fait flamme potentiel.
Mmh.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive, votre retour culturel ici sur les ondes de Chiz 94.3. Et je suis très heureuse d'accueillir à l'autre bout du fil la scénariste et réalisatrice Laurence Côté-Collins. Allô, allô!
Bonjour!
Je suis très heureuse de te recevoir à l'émission, Laurence, pour parler de ton troisième long métrage qui s'appelle Billy, un film documentaire qui nous plonge dans la tête de ton ami Billy qui souffre de schizophrénie et lequel que tu as accompagné vers la voie du pardon après qu'il ait commis l'irréparable, en raison de sa maladie. Tu as connu Billy quand tu étais plus jeune, justement, parce que les deux, vous étiez réalisateurs de courts-métrages avec Kino, et vous avez repris contact quelques années plus tard, quand il était déjà en prison. Et puis je me demandais, ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé à vouloir réaliser le film documentaire Billy?
Ah mon Dieu, c'est une grande question. Ben, premièrement, c'est la démarche de pardon, pour moi, c'est quelque chose de très personnel à chaque personne qui reçoit le film. Pour moi, c'est vraiment une démarche de rétablissement et de compréhension parce que Billy, il faut savoir que sa schizophrénie s'est déclenchée en 2007. Donc moi, quand j'ai connu Billy dans le mouvement Kino, il était déjà malade. Mm-hmm. Et il était très spécial. Mais tu sais, des artistes spéciales, originales, parfois même foquées, excusez-moi le mot, mais c'est un classique ordinaire dans le milieu des arts. Donc, Billy avait des comportements parfois erratiques, puis on faisait beaucoup la fête, donc ça se mélangeait à tout ça. Mais Billy a commencé à, dans sa schizophrénie et ses psychoses qui se sont accélérées, ses hallucinations étaient très épeurantes et il y a eu une montée de violence à travers sa schizophrénie. Puis il faut savoir quand même que dans la maladie, c'est un très faible pourcentage de personnes qui souffrent de schizophrénie qui vont tomber dans la violence. Donc, on ne parle que de ces gens-là aux nouvelles,
100%.
Mais c'est un très faible pourcentage des gens qui sont malades. Donc, puis c'est ça. Donc, moi, Billy, il m'a attaqué en 2010 après une projection Kino. Et j'ai coupé les ponts avec lui, puis j'ai entendu une nouvelle à la fin de 2012 qui avait été arrêté. Et Billy m'a entendu dans sa cellule en prison fédérale en 2017 pendant la promotion de mon film Écarté, mon premier long-métrage que j'avais tourné avec un ex-détenu. Donc, c'est sa sœur qui m'a contactée sans même savoir que moi, j'avais coupé les ponts avec Billy. Et j'ai choisi d'aller à sa rencontre parce que je voulais avoir des réponses à mes questions. Je voulais savoir pourquoi il m'avait attaqué. J'avais besoin de comprendre. Puis, ça faisait plusieurs années que je faisais déjà du bénévolat en prison dans des cercles de rétablissement pour l'alcool. Donc, je me sentais super équipée pour aller le retrouver en prison. Et quand je l'ai retrouvé ultra malade, il venait de trouver la bonne médication parce que Billy, sa schizophrénie est au stade de l'handicap. Il prend de la clozapine et c'est le médicament qu'on donne en dernier recours pour les gens qui souffrent de schizophrénie réfractaire. Donc ça veut dire qu'il y a comme la maladie, elle a tellement pris du terrain pendant des années que la personne malade doit apprendre à vivre avec ses symptômes. Puis c'est ça. Donc quand j'ai retrouvé Billy, il était visiblement très malade. Il n'y avait aucun doute. Et j'ai décidé de continuer de l'accompagner dans son rétablissement en prison parce que j'étais la seule personne qui avait accepté d'aller le voir. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, je pense qu'on devrait faire un film, Billy, parce que ça a attaqué beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de toi, puis il y a deux personnes qui sont décédées, puis je pense que les gens méritent d'avoir des réponses. Mm. Et à ce moment-là, Billy, il savait même pas qu'il était responsable des morts. Donc, c'était grave comme ça. Là, il était complètement déconnecté. Donc, Billy a compris à travers le projet puis avec moi dans le film qu'il était vraiment responsable. Donc, c'est vraiment une démarche d'art-thérapie qu'on a fait sur 7 ans. Ouais, c'est alors, c'est un long processus.
C'est un très long processus, puis j'ai vraiment le film Billy, c'est, j'avais jamais vu un film documentaire comme celui-là, puis un des aspects quand même qui le distingue selon moi, c'est qu'il est composé majoritairement d'archives vidéo que Billy a lui-même pris de 2002 à jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter en 2012. Puis dans le film documentaire, il y a un moment où tu parles justement de ce moment-là où Billy te nomme qu'il y a des archives qui sont entreposées chez un de ses amis dans cette valise. Puis tous les films font différents états justement de sa maladie. Il y a des moments où on le voit en pleine psychose. Puis je me demandais, ça a été quoi ta réaction quand tu as visionné pour la première fois ces extraits d'archives-là?
Bien, en fait, tu sais, moi, quand j'ai commencé les projets avec Billy, d'un, je pensais faire un court-métrage documentaire parce que je pensais que j'allais avoir 6-7 archives de kino dans lesquelles il avait joué, dont un de mes films. Et finalement, dans le processus, Billy a fini par me dire qu'il avait caché du matériel chez un ami de kino. Puis c'est ça, c'est 6 balises. Le chiffre 6 est prédominant dans la vie de Billy parce que c'est le chiffre du diable. Hein? Puis c'est comme le diable est très, très, très présent dans ses psychoses et son imaginaire. Donc, il y avait 6 balises et j'ai retrouvé une tonne de matériel de tous les formats, VHS, Super 8, Mini DV, DVD, en fait, la famille a grandi avec une caméra. Les enfants ont toujours joué à faire du cinéma. Ils ont joué à Hollywood. Donc, j'ai retrouvé du matériel de toute la famille pour toute la durée de la vie de Billy. Puis, Billy, c'est un homme qui, avant d'être malade, est avant tout un artiste. C'est quelqu'un de très éduqué, qui a été diplômé de l'école du show business et qui avait vraiment le désir sincère de faire du cinéma. Mais dans sa descente aux enfers avec sa schizophrénie, en sortant de l'école du show business, il s'enfermait dans sa maison, dans ses appartements, puis il faisait des psychoses en se confiant à sa caméra. Mm-hmm. Donc, c'est du matériel inédit là, de voir autant de souffrance, puis autant de voir quelqu'un qui hallucine, qui a peur dans la rue. Puis... Donc, moi, quand j'ai retrouvé tout le matériel, parce qu'il y avait aussi du matériel écrit, c'est pour ça qu'on a sorti un livre qui s'appelle Billy à vie, là, qui est disponible dans toutes les librairies parce que j'avais trop de matériel écrit aussi de psychose. Quand j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé l'avocat du procès de Billy. Puis on a mis un arrêt sur le film parce qu'il y avait il y avait une possibilité qu'on retourne en appel. Tellement que c'était des preuves contemporaines importantes sur la gravité de la maladie de Billy et à quel point ça a duré longtemps dans les années. Parce que la tragédie, fin 2012, Billy, il a quand même fait peur à plusieurs personnes dans les années qui ont précédé. Là, tu sais, c'est pas... puis c'était pas volontaire de sa part. Là. Il était très désorganisé quand il était en psychose. Fait que c'était quand même épeurant quand il allait pas bien, là. Puis, donc, oui.
Puis, comme j'ai lu dans une entrevue que tu as faite avec Radio-Canada, que avant de rencontrer Billy, que tu connaissais rien justement à la maladie qu'est la schizophrénie. Puis tu l'as dit un peu en début de notre entrevue, il y a plusieurs... je pense que la société a plusieurs préjugés envers cette maladie-là, puis il y a plusieurs aspects qu'on connaît pas, justement. La schizophrénie touche quand même 1% de la population mondiale. Là. C'est énorme. Puis je me demandais, qu'est-ce que ton amitié, justement, avec Billy, puis ainsi que le film t'a permis de faire comme apprentissage, autant à propos de la santé mentale que sur la schizophrénie en plus particulièrement?
Ben, de un, la schizophrénie, c'est vraiment la maladie mentale la plus grave, la plus répandue, la moins bien comprise et la plus stigmatisée. Ouais. Donc, c'est des gens qui portent une étiquette qui est très, très pesante. Billy, quand tu as une sentence de vie et que t'es en prison, tu as une grosse étiquette. Donc, puis la schizophrénie, on surnomme aussi ça la sentence de vie. Donc, Billy a comme une double sentence. Parce que quand la maladie elle est prise trop tard, c'est là qu'on parle d'une schizophrénie réfractaire qui est médicamentée de façon beaucoup plus lourde. Quand plus on découvre la maladie rapidement, plus on est capable de donner une médication douce. Et il y a plusieurs personnes qui souffrent de schizophrénie qui sont capables d'avoir une vie tout à fait normale avec une famille, un travail et tout ça. Donc, la schizophrénie, ça peut être une maladie qui est vivable, entre guillemets, là, mais c'est une maladie qui génère beaucoup de souffrance, qui c'est complexe à diagnostiquer, c'est complexe à repérer. Puis comme les gens ont peur, ben au lieu d'aider, on a tendance à fuir. Et c'est sûr que ce que j'ai pu remarquer avec à travers mon accompagnement avec Billy puis à travers toutes les lectures que j'ai faites, c'est que le malade, plus il se comprend, la personne malade, plus elle se comprend, plus elle devient comme bonne avec elle-même au niveau de ses symptômes, puis de sa façon de s'exprimer au niveau de ses délires, puis d'avoir des repères précieux avec des proches aidants. C'est plus facile pour valider ses perceptions, c'est plus facile pour être capable d'avoir un soutien. Puis ça prend beaucoup de temps pour développer un lien de confiance avec quelqu'un qui a tendance à délirer, parce que c'est très... C'est honteux, le délire, hein? C'est quelque chose qu'on cache, on ne veut pas se vanter d'entendre des voix, on ne veut pas se vanter d'avoir de la paranoïa. Donc, créer un lien de confiance avec quelqu'un, ça prend du temps. Puis, se rétablir et se comprendre, ça prend de l'éducation et ça prend du temps et ça prend de l'écoute empathique et bienveillante. Donc, c'est sûr qu'en prison, ce n'est pas ça qu'on a comme service. Puis, ça prend le temps que ça prend. Moi, si je n'avais pas eu l'argent pour faire un film, j'aurais pas pu mettre autant de temps sur Billy. Donc, c'est un peu de l'économie circulaire. J'ai pris de l'argent pour faire du cinéma, mais je l'ai réinjecté beaucoup sur des réévaluations psychiatriques de Billy, sur de l'argent pour la prison. Je lui ai acheté de la littérature qu'on a lue au téléphone. J'ai pu lui payer des cartes d'appel parce que ça coûte cher, la prison, pour les détenus. Donc, au final, c'est sûr que d'être en équipe avec quelqu'un puis d'avoir un lien de confiance qui est fort, ça fait toute la différence pour la personne en rétablissement.
Tellement.
Puis aujourd'hui, Billy s'est vraiment rendu le champion de lui-même. Il connaît tous les termes médicaux de ses symptômes. Du moment qu'il se sent pas bien, il dit, il en parle ouvertement, il dévoile sa maladie. Puis ça prend beaucoup de courage parce que, tu sais, Billy, il croule sous la honte suite aux événements. Quand il a compris qu'il était vraiment responsable de tous les dommages qu'il avait causés, c'est quelqu'un qui a du mal à vivre avec le poids de la honte. Mais ça prend beaucoup de courage pour dévoiler autant d'intimité et de souffrance.
Mm-hmm.
Puis en ce moment, à l'heure actuelle, la Société de la schizophrénie du Québec est devenue partenaire du film et du livre, puis ils font la tournée du Québec, puis ils rencontrent le public avec moi, parce qu'on est un outil contemporain, inespéré, pour donner accès à la schizophrénie avec un point de vue de l'intérieur. On parle de savoir expérientiel. Donc, on part de l'expérience du malade pour être capable de comprendre la maladie.
Mais justement, tu l'as vraiment bien dit, puis ça, c'est un des aspects qui m'a le plus touché du film documentaire Billy, c'est comment une présence d'une personne significative dans la vie de quelqu'un qui est malade, qui est isolé, ça a un impact. Ça a des impacts positifs sur sa santé mentale, sur la découverte de lui-même puis de qu'est-ce qui est vraiment arrivé suite à la tragédie de en 2012. Puis vraiment ça m'a extrêmement touché jusqu'à la fin du film où tu vas le retrouver en prison et qui est comme un moment qui est filmé aussi dans une cellule. Puis qui fait vraiment le film se termine avec des aveux puis des excuses qui sont extrêmement touchantes. Puis comme tu le disais, en fait à partir du 30 mai prochain, le film Billy, après t'as fait vraiment une grande tournée là de plusieurs festivals avec le film et le film
ça
Billy
continue,
va
continue en fait, hein, excuse-moi je te coupe, mais ça continue là, on est partout dans le monde parce que la schizophrénie est au-dessus des guerres, est au-dessus de la politique là. Quand on parle d'1% de la population mondiale, c'est partout sur la planète. Donc, le film, il y a de la résonance sur tous les continents en ce moment. C'est assez spécial.
Ben bravo, pour vrai, c'est vraiment important le travail que vous avez fait ensemble justement. Puis comme tu disais un peu plus tôt, vous créez des moments de rencontre justement avec le public, et il y aura une projection spéciale avec toi et la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées à Québec le 28 mai, donc demain au cinéma Cartier. Pourquoi c'est...
À 19h, on va être là, oui.
Puis pourquoi c'est important pour toi justement d'aller à la rencontre du public, puis de discuter avec les gens qui regardent le film après l'avoir vu?
Mais c'est parce que pour déstigmatiser la schizophrénie, il faut qu'on soit capable de se parler. Mm-hmm. Puis moi, ce que je voulais avec le film Billy, c'était ouvrir le dialogue pour qu'on soit capable de se parler d'un problème. Parce que, tu sais, au Québec, on est 8 millions, ça veut dire qu'il y a 80 000 personnes qui souffrent de schizophrénie environ, plus les autres psychoses apparentées. Puis là, à ça, on ajoute toutes les familles, les proches aussi qui sont concernés par la maladie. Autour de nous, on connaît presque tous quelqu'un qui souffre de cette maladie-là. Donc, c'est tellement important. Les gens ont peur de cette maladie-là. Les gens, c'est un lourd poids. Puis on a une grosse job d'éducation populaire à faire. Vraiment. Et le film ouvre le cœur du monde. Ça pleure. Le monde, c'est comme tout le monde devient vraiment vulnérable dans les salles de cinéma, puis ça crée des rencontres merveilleuses, parce que le film, Billy et moi, on est tellement dans notre intimité puis dans nos dévoilements, on dévoile tous les deux ce qui nous rend honteux dans la vie. Donc les gens, après ça, dans le cinéma, ils se sentent très proches de nous. Puis là, les gens parlent à cœur ouvert de leurs blessures, de leurs proches qui souffrent de la maladie, et ça crée des rencontres et des discussions. J'étais à des années-lumière de penser de me douter que ça ferait cet effet-là sur les gens.
Mmh. Mais
donc, en ce moment, c'est le fun, parce que je veux ouvrir le dialogue, puis ça marche au bout.
Ben pour vrai, j'ai recommandé, après avoir visionné le film, j'ai recommandé à plusieurs personnes d'aller justement demain à la représentation avec toi, qui a lieu le 28 mai au cinéma Cartier. Par la suite, le film, Billy, va prendre l'affiche officiellement à partir du 30 mai au cinéma Cartier à Québec. Puis je rappelle, j'avais peut-être une dernière question pour terminer. On a parlé brièvement du livre Billy, puis je me demandais, Billy à vie, pardon, qui est publié aux éditions La Mèche, puis je me demandais comment est-ce que le film et le livre se complètent, puis c'est quoi en fait la différence entre les deux œuvres?
Bien, c'est des œuvres complémentaires. C'est comme si on voit juste le film, c'est comme un 180, puis si le livre, c'est juste... Fait que quand on a le livre et le film, c'est un 360. Mm-hmm. On fait le tour complet. Parce que dans le film, on le voit, je découvre des valises avec des écrits, avec de l'algèbre résiduelle, puis plein d'affaires. Donc, moi, ma première version du film, elle faisait 6 heures. Et j'ai tellement de matériel de Billy, puis là, je pouvais pas tout mettre dans le film, puis je pouvais pas tout mettre dans un livre. Fait que j'ai décidé de faire un livre qui est complémentaire. Puis on me demande beaucoup c'est quoi qui s'est passé avec les familles des victimes, avec la famille de Billy, puis le procès. Les gens posent des questions sur la période de procès, pourquoi qu'il a été reconnu criminellement responsable. Donc, dans le livre, il y a une entrevue avec Rodrigue Beauchesne, l'avocat de Billy pendant la période de procès. Puis Billy, pendant les 28 mois de détention provinciale avant d'être condamné, il a fait plusieurs psychoses, puis il a écrit compulsivement pendant ses psychoses en prison. Donc, c'est toute sa souffrance carcérale, psychotique, que j'ai scannée. Fait que on a accès vraiment à une intimité là, intense, et une très, très grande souffrance. Donc, ça fait vraiment... Dans le film, on le montre, Billy a envoyé une lettre au personnage de film Cheech et Chong pendant qu'il était en prison, pour dire qu'il s'était fait framer. Mais dans le livre, la lettre, elle fait 6 pages, puis elle est là au complet. Donc, c'est vraiment du matériel complémentaire. Donc, c'est le fun, parce que quand les gens voient le film, souvent, ils achètent le livre en sortant du cinéma, parce qu'ils sont comme, je veux tout savoir.
Mm-hmm.
Puis moi, je reçois... Puis c'est difficile, le cinéma, c'est peu accessible. Hein? Le documentaire, là, les cinémas ne nous programment pas, c'est dur d'avoir des salles.
C'est vrai.
Alors que le livre de Billy, il est partout dans les librairies, les bibliothèques. Donc, je reçois des courriels, des Messenger, des Instagram de plein de gens partout à travers le Québec qui se prennent en photo avec le livre et qui me disent « Merci, grâce à votre livre, je comprends mieux mon fils, je comprends mieux mon frère, je comprends mieux ma fille. » C'est un outil qui aide beaucoup les gens qui ont un proche qui souffre de la maladie. Donc, en ce moment, quand les gens sont pas capables de voir le film, le livre, là, c'est comme l'outil de base. Vraiment.
Ben merci grandement Laurence Côté Collins pour cette entrevue. Tu vas être, je le répète, tu vas être à Québec demain au cinéma Quartier à 19h pour une projection spéciale avec toi-même ainsi que des spécialistes de la schizophrénie. Merci grandement.
Merci beaucoup.
Bye. Alors voilà, chers auditeurs, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on va discuter avec votre chroniqueuse hip-hop, Lana Henk.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bienvenue à votre session de braillage hebdomadaire. Ou pas, on sait pas. Une fois de temps en temps, là. Mais moi et Kevin vous présente le meilleur de la musique emo d'hier, de maintenant et de demain. Sur les ondes de Chiz 94.3, les mardis à 14h, quand ça nous tente.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle, connais-tu ton asso étudiante, l'Allier? Nos bureaux sont situés à la Maison Marie-Sirois du 2320 rue de l'Université. Nos heures d'ouverture sont les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les mercredis, nos bureaux sont fermés et vous pouvez nous envoyer un courrier à allier@allier.ulaval.ca.
Salut, c'est Noémie, votre animatrice de Chérie, j'arrive! Chaque dernier vendredi du mois, retrouvez-moi pour Chiz au pub, une émission spéciale devant public, en direct du pub universitaire, pour en connaître davantage sur les projets et initiatives culturelles de votre campus. Entrevues, performances live, concours et plus encore. Chiz au pub, tous les derniers vendredis du mois, de 16h à 17h30, sur les planches du Pub U et sur les ondes de Chiz 94.3.
Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3, toujours accompagnée de ma co-animatrice du jour, Élise Rivrain.
Hello!
Et nous a rejoint une autre collaboratrice d'exception de Chérie, j'arrive, votre chroniqueuse hip-hop, Lana Henk. Salut, salut!
Salut, c'était une super introduction, ça.
À vous, hein? Ouais. Et là, ben, tu nous immerses dans un monde différent aujourd'hui que celui du hip-hop, mais je pourrais dire un cousin.
Cousine. Un cousin, ouais. Ouais, parce qu'on aime un peu varier les plaisirs ici. Et c'est surtout qu'avec le soleil, la chaleur qui reviennent, etc. Moi, chez moi, ça se transmet musicalement dans mes oreilles par des sonorités beaucoup plus soul, jazz, de la bossa nova, un peu tous ces rythmes groovy et profonds à la lenteur, je dirais un peu addictive. Et je vais quand même un petit peu parler de mainstream, juste un instant pour remercier la chanteuse américano-colombienne Kalushis pour son dernier album Sicily, qui m'a, moi, complètement refait plonger dans cet univers musical soul, néo-soul. Et je vous invite à aller l'écouter parce qu'il vaut le détour.
Ouais, elle a fait beaucoup jaser dernièrement.
Ouais, et vraiment ça...
Avec raison.
Avec raison, totalement. Oui, heureusement, en France, on a un peu dans cette même veine musicale une super vague émergente R&B néo-soul et ouais, très talentueuse. Donc, par exemple, plus tôt dans l'année, je vous ai parlé de La Flaine pour nos auditeurs aguerris. Mais je pense aussi à d'autres artistes comme Ruti ou Sonny Rave pour citer un artiste masculin pour nos curieux. Mais aujourd'hui, je vais pas vous parler de l'un ou l'autre, mais je vais vous parler de. Enfin, mon attention s'est concentrée sur AFA. A2FA. Tout simplement. C'est une artiste franco-sénégalaise de 26 ans qui a grandi dans le nord de Paris. Et en fait, ce qui est intéressant dans sa musique, c'est cette mixité culturelle et sociale. Elle va donner des couleurs à une musique à la fois riche et unique. Entre justement afro-sound, de l'R&B, du jazz, de la pop, même de la trap, de la soul. Enfin, vous allez entendre ça, même de la bossa nova. Et elle chante aussi bien en français qu'en anglais, même en portugais. Donc, sa discographie, elle est certes courte, mais elle est définitivement marquante et identifiable. Donc, si je peux vous faire un peu,
un retour sur sa carrière. Ses premiers pas sur la scène musicale remontent quand même à seulement 2023 avec la sortie d'un seul single qui s'intitule « Autour de moi ». Et elle a ensuite sorti son premier EP en juin 2024, en juin dernier, qui s'intitule « Echo ». Et moi, personnellement, c'est avec ce projet que je l'ai découvert et que j'ai été directement transportée dans son univers. Et donc, cette fois-ci, pour qu'on ait un peu la même approche d'elle, j'ai décidé de vous parler la chanson avec laquelle je l'ai découvert, qui s'intitule « Saudad » et qui, justement, constitue l'introduction du projet.
Alors, on écoute ça. Let's Allez. Go
Le temps fait bien les choses et on ne sait pourquoi. Dis-moi combien tu m'aimes encore une fois. J'embrasserai tes défauts comme je soignerai tes maux. Je prierai autant qu'il faut que tu sois à moi. J'avoue que tu me troubles, dans tes yeux je me perds. Même si tes mots sonnent faux, dans ton jeu je vois clair. Dans ton jeu je vois clair. Jamais non t'en aller. Et si tu doutes, laisse-moi te rappeler. Aux yeux du monde entier, on s'est engagé. Je t'ai dans la peau comme tu m'as dans la. Même si le temps passe, même si les jours passent, rien ni personne en a. On éteindra la flamme qui brûle en moi. J'avoue que tu me troubles, dans tes yeux je me perds. Même si tes mots sonnent faux, dans ton jeu, je vois clair. Dans ton jeu, je vois clair.
Continue à écouter la chanson Saudade de Afa. On est en pleine chronique hip-hop avec votre chroniqueuse Lana Henk qui nous parle justement de cet artiste.
Oui. J'ai même pas envie de parler, juste envie d'écouter.
À vous, hein?
Ouais. Et pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, c'était justement le titre Sound Out qui introduit le sublime EP de l'artiste AFA, A2FA, dont je vous parle aujourd'hui. Et
Sound Out, c'est un mot portugais. Hein,
ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est un mot qui est très repris dans beaucoup, notamment dans le rap, dans le rap français.
Ah ouais.
Dans le rap français, il y a beaucoup de rappeurs qui apprécient ce mot et qui l'emploient, notamment, je pense, si certains connaissent Green Montana, qui est un très gros rappeur mainstream français qui a justement sorti un album l'année dernière qui s'intitule Saudade, le titre de l'album. Et ouais, je pense que c'est le côté un peu mystérieux de sa non-traduction littérale qui doit plaire et ce côté ouais, ça serait une signification comme un sentiment mélancolique qui est mêlé de rêverie et d'un désir d'un bonheur imprécis et qui attire, et ça donne des super musiques à chaque fois, je trouve, quand le mot quand ils essayent de retranscrire ce mot en sonorité.
Ouais, j'ai vraiment aimé la chanson titre. Je trouve que c'est une belle introduction là, justement, pour apprendre à connaître l'artiste là. C'est doux, c'est introspectif, il y a une touche de sensualité aussi dans le son.
On a quand même envie de danser un peu, genre
tu bouges un peu tes épaules. Ouais, exactement, c'est vrai, hein. Ouais, c'est ça. Et ben ça donne tout de suite le ton en fait au projet, qui justement en fait c'est ça, c'est pour moi, c'est une musique hyper sensuelle, envoûtante. Et en fait, les maîtres mots un peu de ce projet qui s'intitule Echo vont être la famille, l'amour de soi et l'inclusivité. Et en fait, c'est un réel voyage intérieur qui va se matérialiser en voyage sonore. Et en fait, voilà, ça peut que susciter empathie et compassion pour l'artiste qu'on écoute. Et ça crée des addictions, en fait, tout simplement. Et ouais, on ressent un peu tout de suite l'inspiration de figures sound majeures. Enfin, pour parler des plus connus, Erykah Badu, ou même Lauryn Hill, ou encore D'Angelo. Enfin, on sent vraiment qu'elle a été bercée à ça. Mm-hmm. Et ces inspirations, elles vont être aussi... elle va aussi aller puiser dans l'érudition et dans toute la littérature un peu... africaine, et notamment des penseuses africaines dont elle dit s'être inspirée, justement. Et bien qu'elle cite pas de femmes vraiment ou de citations dans son, du moins j'en ai pas repéré dans sa musique, mais elle cite bien Aimé Césaire, qui est quand même qui est un penseur important de la négritude, et qu'il définit tout simplement comme la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture, pour le citer. Et on sent que AFA, quand elle crée sa musique, elle a ces mots aussi qui restent dans sa tête et qui guident aussi un peu qui guide toute sa création. Et donc ouais la musique d'AFA, en fait, elle est à la fois riche de sens, mais aussi riche de cœur et aussi riche de foi. Puisque la spiritualité et toute la religion occupe aussi une place importante dans sa musique.
Puis tu disais justement qu'elle a Echo, c'était son premier EP, mais elle a sorti récemment un deuxième projet également.
Ouais, exactement. Récemment, il y a la semaine dernière, tout juste. Je pense que c'est comme ça qu'elle est revenue un peu dans mes écouteurs. Et y a un changement d'ambiance. Y a une évolution de style où elle va encore pousser un peu ce groove un peu à l'étape supérieure. Et il y a toute la musique, que ce soit aussi les paroles et même l'interprétation, tout est beaucoup plus incisif. Et pour vous parler en fait du nom aussi de l'EP qui s'appelle Underground Music Superstar Vision. Le titre est assez évocateur, et bien qu'il peut paraître un peu antinomique, car un artiste underground qui désire le rester ne peut pas devenir une superstar. Mais en fait, pour moi, cette pseudo opposition, elle prend tout son sens quand on écoute l'album, parce que être underground, ça veut dire rester indépendant et un peu loin des circuits traditionnels commerciaux de l'industrie. Mais en fait, pour AFA, ça l'empêche pas d'avoir en fait l'audace et surtout l'aura en fait d'une superstar.
Bien dit.
Et donc dans ce court EP de 17 minutes, elle chante à la fois ses valeurs, ses aspirations, mais aussi surtout en fait sa détermination. Et comme elle le dit, l'indépendance est une force et pas une limite.
Waouh, ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui devrait rester en tête chez tous les artistes de manière générale. Et en fait, tout cela, elle va chanter tout cela sur des sonorités encore plus groovy, mais toujours très variées. En fait, lors de ces 17 minutes de musique, on a des sonorités de jazz, ça, mais aussi il y a beaucoup de, un peu plus de rap. Cet album est un peu plus rappé. Il y a de la trap, de l'R&B pop même. Bref, en fait, ce projet, il est autant riche de sonorité que de sens, et dans ce projet elle va un peu lever le voile, et aussi elle va élever la voix, et elle fait preuve d'une honnêteté pure et aussi rare, parce que notamment les gens sont généralement honnêtes quand il s'agit de parler d'amour ou de sentiments, puisque c'est vendeur, ça reste quand même un des sujets les plus universels qui soient, mais on parle rarement d'argent. Et Afa, elle a carrément dédié une musique à ses dettes qui s'intitule Moins 300. Et pour reprendre une de ses paroles, elle dit « À moins 300 sur mon compte en banque, je suis pas riche financièrement, mais s'il y a bien quelque chose dont je suis riche, c'est de ma détermination.
»
Et en soi, la précarité, pour faire une ouverture un peu plus large, la précarité artistique, c'est un réel problème aujourd'hui. Et bien que, on s'imagine souvent la lumière des projecteurs, etc., mais la réalité, elle est plus souvent à l'ombre de la précarité.
Mmh.
Et notamment en France, il y a le statut d'intermittence du spectacle. Je ne sais pas si vous avez un équivalent au Québec.
Non. Qu'est-ce que c'est ?
Ça permet à tous les artistes, au sens large, ou aux personnes qui travaillent dans le milieu artistique, du spectacle, etc., d'avoir un revenu minimum. Donc le SMIC qui va être aux alentours en ce moment de 2200 euros, etc. Mais
waouh, je te confirme qu'on n'a pas ceci.
Ouais, voilà. C'est pour aider à toute la création artistique, la culture, qui est quand même très importante en France, du moins.
Nous, on a ce qu'on appelle les subventions.
Ouais, c'est arrivé dans les années 80, si je ne m'abuse, ouais. Et qui est aussi un peu comme au Québec, la culture, ça est un peu mis à mal par les politiques publiques, mais soit. Mais ça reste quelque chose de qui est censé, un peu amortir, mais ça reste assez complexe et insuffisant, parce que c'est aussi c'est beaucoup de paperasse, et il faut justifier de 507 heures de travail sur une année complète pour pouvoir toucher. Et ça, c'est très compliqué, notamment quand on est un artiste au début, parce que c'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de temps à faire de la musique, mais il faut aussi vivre, et en général il cumule deux jobs, donc
il faut documenter là, toutes ces heures de travail là, ça peut être compliqué aussi.
C'est compliqué, ouais. Et donc il y a ce statut qui fait qui ne permet pas à un artiste de forcément bien vivre correctement. Et après, même les systèmes de rémunération plus général de l'industrie sont pas forcément top. Enfin, je pense que vous savez, au niveau des plateformes de streaming, j'ai regardé tout à l'heure, et sur Spotify, un artiste gagne en moyenne, c'est 0,003, on va dire centimes pour moi, d'euros par écoute. Et donc, en fait, faudrait peut-être un artiste 350 000 écoutes pour gagner 1 000 euros, à peu près 1 200 euros par mois. Donc, ce qui est énorme. Et en parallèle, c'est 70% des revenus de streaming qui sont captés par tout ce qui est les majors, les plateformes, et pas par les artistes en soi. Après, tout dépend des contrats. Il y a des subtilités qui se cachent là-dedans. On est d'accord qu'en général, les plus gros artistes vont gagner plus parce qu'ils vont... ils vont marchander un peu au niveau de leur contrat. Et c'est pour ça que les indépendants galère un peu, et ça se comprend. Et donc, en fait, ça, c'est un passage qui est un peu malheureux, mais qui est un peu obligé pour une artiste comme Afa et de son calibre, qui désire rester un peu droite dans ses bottes, mais et du coup loin des rouages de l'industrie. Et ce qui est certain, c'est qu'Afa, elle aime la musique, mais elle se travestira jamais pour elle. Notamment, elle pointe beaucoup dans sa musique l'industrie musicale, qui oublie un peu... peu trop parfois le côté musical là-dedans. Mais plus que ça, dans ce projet-là, elle va beaucoup parler d'elle en tant qu'artiste et de ses ambitions, mais cet album ne ferait pas sens que chez les musiciens ou les fans de musique, parce que je trouve que ce jeu, il a quand même il trouve un écho assez universel, notamment dans Animal Instinct, ou Fire, où elle parle en fait de développer un peu son instinct animal pour survivre à la cruauté du monde, surtout en tant que femme, et encore plus en tant que femme noire. Ça, elle le revendique beaucoup. Bref, en fait, pour conclure un peu, la musique d'Afa, c'est elle-même un peu retranscrite en sonorité, celle d'une femme noire, justement, déterminée à faire un peu grandir les statistiques, mais loin des bris de l'industrie et des cases musicales. Car en soi, la diversité et la mixité est l'une des plus belles choses que le monde a à nous offrir. Mmh. Et je vous laisse ainsi avec Diva. J'ai choisi de finir cette chronique avec cette musique, parce que pour moi, elle retranscrit au mieux en soi cette diversité et toutes ses aspirations, aussi bien dans les paroles que dans les sonorités.
Allez, on écoute ça ensemble pour terminer l'émission d'aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices, la chanson Diva de Afa. Merci, Lana.
Avec plaisir, très bonne écoute.
Je repartirai comme une diva avec les honneurs du ghetto. Hey, aucun modèle, aucun héros, c'est la guerre. J'ai grandi entre les voleurs, les ghettos, les porteurs de métaux, les frotteurs du métro, c'est la guerre. Coco, t'en fais pas pour ma réputation. Toujours intacte, pas comme ton éducation. C'est la guerre, mais ça faudra la faire. Et gérer ses affaires, seul, pas de temps à perdre.
Et si demain je m'en allais loin, je veux que Dieu soit mon seul témoin. Et si demain je m'en allais loin, je veux que Dieu soit mon seul témoin. Je prendrai les devants, toujours un temps d'avance, avant. Je ne perds plus de temps, de temps. Je m'en remets au seul maître de mon destin. Et si demain je m'en allais loin, je veux que Dieu soit mon seul témoin. Et si demain je m'en allais loin, je veux que Dieu soit mon seul témoin. Je prendrai les devants, toujours un temps d'avance, avant. Je ne perds plus de temps, de temps. Je m'en remets au seul maître de mon destin.
Superstar Vision.